Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 131 de la sainte sourate Al-Nisa. Notre frère Rahnama vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle à l'homme la puissance de Dieu et le met en garde contre la mécréance.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي.
À Dieu, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Craignez Dieu. Voilà ce que, très certainement, nous avons enjoint à ceux à qui, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous m'écroyez, eh bien, à Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu demeure au large, digne de louange.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi de Bahman 1399 du calendrier iranien, 21 janvier 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. La guerre d'Algérie, des actes symboliques, mais pas d'excuses de la part d'Emmanuel Macron. Le ministre iranien des Affaires étrangères appelle Joe Biden à tirer leçon des erreurs de Donald Trump. Les sanctions anti-syriennes doivent être levées, a déclaré le représentant de l'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies. Et Paris refuse de faire des excuses officielles pour la guerre d'Algérie. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis avaient besoin d'actes et non de paroles pour réparer leur système. Dans un tweet, Saïd Khatibzadeh a qualifié les 4 ans de Donald Trump de vandalisme diplomatique. Il a estimé qu'un tel vandalisme de Trump et de ses collaborateurs découlait en partie d'un processus institutionnel brisé aux États-Unis. Le responsable iranien a souligné que même si un tel processus était fonctionnel, il conduisait à des catastrophes comme des guerres en Irak, en Afghanistan et au Vietnam. Ces remarques sont intervenues au moment où Joe Biden a prêté serment en tant que nouveau président des États-Unis, mettant fin à l'ère de l'administration Trump. La République islamique d'Iran a qualifié l'arrestation par les États-Unis du célèbre politologue et auteur irano-américain Kaveh Lutfullah Afrasiabi d'actes flagrants de prise d'otages. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a estimé que M. Afrasiabi était détenu sur la base d'allégations sans fondement. Il a déclaré que les États-Unis étaient devenus dépendants de la prise d'otages des citoyens iraniens. Il aurait été accusé d'avoir agi en tant qu'agent étranger non enregistré du gouvernement iranien. Résident aux États-Unis depuis longtemps, Kaveh Afrasiabi est un analyste de la politique étrangère et auteur de plusieurs ouvrages sur les relations entre l'Iran et les États-Unis. Il a été arrêté lundi à son domicile à Watertown, dans le Massachusetts, par des agents du FBI pour des prétendues activités illégales. Le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a qualifié d'illégales et d'inhumaines les sanctions économiques unilatérales contre la Syrie et a appelé à leur levée immédiate. Majid Tartaravanchi a déclaré lors de la réunion du Conseil de sécurité: nous rejetons complètement l'imposition de sanctions illégales unilatérales et appelons à leur levée immédiate. Notre position consiste à résoudre pacifiquement la crise syrienne. À cet égard, nous soulignons l'importance du processus d'Astana pour aider à façonner le processus politique syrien et soutenir les activités actuelles de l'Organisation des Nations Unies en Syrie, a précisé le haut diplomate iranien. La nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré que les États-Unis cherchaient à allonger et à renforcer les contraintes nucléaires de l'Iran par la diplomatie. Les États-Unis ont pour objectif de renforcer les restrictions sur le programme nucléaire de l'Iran et cette question fera partie des premiers sujets qu'abordera le président Joe Biden avec des homologues étrangers et des alliés, a déclaré mercredi Jen Psaki. S'exprimant à l'occasion d'un point de presse, elle a ajouté que l'Iran doit recommencer à respecter les restrictions sur son nucléaire en vertu de l'accord pour que cela avance. Plutôt, le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que la balle était dans le camp des États-Unis pour revenir à l'accord. Il a souligné que l'Iran ne commencerait à honorer ses engagements que lorsque les États-Unis commenceraient à s'acquitter de leurs obligations. La guerre d'Algérie, Paris refuse de faire des excuses officielles. Le président français Emmanuel Macron a refusé les excuses officielles concernant les abus durant l'époque coloniale en Algérie. Le président français Emmanuel Macron va prendre des actes symboliques pour apaiser les mémoires sur la guerre d'Algérie et tentera de réconcilier les deux pays, mais il ne présentera pas des excuses demandées par Alger, a annoncé mercredi la présidence française. Pour l'Élysée, l'important est désormais de sortir du non-dit et du déni sur la guerre d'Algérie qui a duré de 1954 à 1962 et qui continue de déchirer les deux pays, rendant hypothétique toute réconciliation à l'approche du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie en 2022. Le commentaire politique d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. Et enfin, la Chine a annoncé des sanctions contre 28 responsables du gouvernement de l'ancien président américain Donald Trump, dont son secrétaire d'État Mike Pompeo, pour violation de sa souveraineté, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué diffusé au moment même où Joe Biden s'est investi dans les fonctions du président des États-Unis à Washington. Outre Mike Pompeo, sont notamment cités par la diplomatie chinoise Peter Navarro, conseiller au commerce de Donald Trump, Robert O'Brien, qui fut un de ses conseillers à la sécurité nationale, Alex Azar, le secrétaire à la santé sortant, ainsi que John Bolton et Stéphane Bannon, qui ont aussi conseillé Donald Trump. Toutes ces personnalités et les membres de leur famille se verront interdire d'entrer sur le territoire chinois, y compris Hong Kong et Macao, a souligné le ministère chinois des Affaires étrangères. Eux et les sociétés et les institutions qui leur sont associées ne peuvent également pas faire d'affaires avec la Chine, a-t-il ajouté. Ces dernières années, Mike Pompeo a propagé un nombre incalculable de mensonges et d'idées pernicieuses, fustige également la diplomatie chinoise. Thank you. pour la guerre d'Algérie, il y aura des actes symboliques, mais pas d'excuses de la part du président français Emmanuel Macron. La France envisage des actes symboliques par rapport aux crimes commis à l'époque de la colonisation et de la guerre d'Algérie, mais annonce qu'il n'y aura ni repentance ni excuses, a annoncé ce mercredi l'Élysée dans un communiqué. Plus de 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, qui a duré de 1954 à 1962, les relations entre Paris et Alger restent tendues en raison des crimes commis par la France pendant la colonisation et les 8 années de la guerre d'indépendance d'Algérie après 130 ans de colonisation française. Emmanuel Macron est le premier président de la République française né après la fin de la guerre d'Algérie. Il avait confié à l'historien Benjamin Stora de lui remettre un rapport sur la colonisation et la guerre d'Algérie, rapport qui a été remis à l'Élysée ce mercredi. L'historien a préconisé notamment de créer en France une commission Mémoire et Vérité, chargée de proposer des initiatives communes entre la France et l'Algérie sur les questions de mémoire, afin de réconcilier les deux rives de la Méditerranée, mais exclut la nécessité de toute excuse aux Algériens. Emmanuel Macron participera à 3 journées de commémoration dans le cadre du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie en 1962. L'Algérie a demandé à maintes reprises à Paris de présenter ses excuses aux Algériens pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis pendant la colonisation. Contrairement à ses prédécesseurs qui niaient totalement les crimes commis par la France en Algérie, Emmanuel Macron a reconnu en septembre 2018 que la France avait mis en place un système entraînant des actes de torture pendant la guerre d'Algérie. Mais il s'est abstenu de présenter des excuses de la France. La France et l'Algérie poursuivent des négociations depuis 4 ans au sujet de 4 dossiers historiques sans aboutir à aucun résultat. Premièrement, l'Algérie exige le partage des archives de la période coloniale, c'est-à-dire de 1830 à 1962, mais Paris a toujours rejeté cette demande d'Alger. Deuxièmement, l'Algérie exige le rapatriement des crânes de tous les résistants algériens conservés en France. Le troisième dossier porte sur la demande d'indemnisation pour les victimes des tests atomiques que la France a réalisés dans le Sahara algérien entre 1960 et 1966, tandis que le dernier dossier porte sur le sort inconnu de 2200 résistants algériens portés disparus pendant la guerre de 1954-1962. Pendant cette guerre, 60 000 combattants et plus d'un million de civils algériens ont été tués par la France. Le gouvernement algérien revendique régulièrement, depuis les années 70, les archives transférées en France en 1961 et 1962. Cela fait déjà plusieurs décennies que le sujet est un nœud de discorde entre les deux pays pour devenir un enjeu diplomatique et politique avant même d'être historique. Le président algérien a nommé le directeur général du Centre national des archives algériennes, Abdelmadjid Chehri, pour penser un travail de vérité sur les questions mémorielles des deux pays. l'Algérie réclame la totalité de ses archives. Lance encore, à mi-décembre, Abdelmadjid Chéri, lors d'une conférence de presse. Les demandes de la partie algérienne sont claires et ne nécessitent pas de concertation, a-t-il ajouté. La question est immuable, car le passé ne saurait être effacé ou oublié.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission des débats. C'était en novembre 2015 et suite aux événements terroristes et survenus en France que le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khomeini, a envoyé une lettre à l'adresse des jeunes d'Europe, des jeunes occidentaux. Dans sa lettre à l'adresse des jeunes d'Europe, l'honorable Ayatollah Khomeini a souligné « Je vous demande de jeter à l'appui d'une juste conception et d'une vision profonde et en référence à des expériences amères, les bases d'une interaction juste et loyale avec le monde de l'islam. » Et l'honorable Ayatollah Khomeini, dans sa lettre à l'adresse en fait des jeunes d'Europe, a fait allusion à ces actes de terroristes dont font l'objet, par exemple, les peuples, que ce soit en France, en Irak, au Liban, en Syrie. Il a en fait souligné toujours dans sa lettre, et je suis persuadé que seul vous, les jeunes, vous avez la capacité de tirer des leçons des événements désagréables de ces derniers jours. Bien sûr, là, l'honorable Ayatollah Khomeini fait référence aux des événements terroristes survenus en France en 2015, afin de trouver de nouvelles voie pour bâtir l'avenir et d'empêcher les déviations qui ont conduit l'Occident à sa situation actuelle. Et toujours dans sa lettre, l'honorable Ayatollah Khomeini a précisé aujourd'hui, personne n'ignore le rôle des États-Unis dans la formation, le renforcement et l'armement d'Al-Qaïda. Ce groupe terroriste, les protecteurs révélés et bien connus du terrorisme Takfiri, sont constamment sur la liste des alliés de l'Occident et ce, en dépit de leur régime politique les plus arriérés, qui réprime cruellement les idées les plus avancées et les plus éclairées des démocraties dynamiques dans la région. Eh bien, nous allons avoir en fait un regard rétrospectif sur cette lettre de l'honorable Ayatollah Khomeini avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Alsace un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître André Chamy. Maître Chamy, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci pour votre invitation et surtout pour votre accueil habituel. Et mes salutations à l'ensemble de l'équipe ainsi qu'à votre invité.
Et l'autre, merci beaucoup. Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Chamy, c'est un philosophe français spécialiste des questions internationales qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir. Bonjour, M. Nerostine. Bonjour à tous vos auditeurs. Et vraiment, tous mes remerciements aussi pour la présence de Maître Chamy d'Alsace.
Merci beaucoup. Monsieur Dortiguier, je viens de lancer le sujet. Cette lettre qu'a envoyée l'honorable Ayatollah Khomeini, guide suprême de la révolution islamique, à l'adresse des jeunes d'Europe, c'était en novembre 2015, et suite aux événements terroristes survenus en France. Monsieur Dortiguier, quelle est en fait la valeur, l'importance en fait de cette lettre de l'honorable Ayatollah Khomeini, d'autant plus que dans sa lettre, le guide suprême de la révolution islamique avait fait en fait des précisions très très importantes sur en fait l'avenir du monde, sur l'avenir du monde de l'islam, avait mis en exergue de cette nécessité de bâtir, si vous voulez, l'avenir du monde, du monde de l'islam, du monde tout entier, avec une de juste conception et avec une vision profonde, monsieur d'Ortillier.
Justement, si on peut résumer, disons en deux mots, l'importance de cette lettre, nous dirons que l'ayatollah Khamenei, guide suprême, a voulu insister auprès des jeunes, auprès de la jeunesse, sur le fait qu'il fallait privilégier la conception des choses, le jugement, sur l'émotion ou la précipitation, comme justement nos moyens d'information ou la propagande, voyez-vous, de tous ces milieux politiques, militaires et autres ici chez nous, font pour pouvoir désorienter la jeunesse. Et qui voulait que la jeunesse voie plus loin, avec toujours en usant de la raison, sur, disons, le caractère. Il n'a pas parlé de religion islamique. Il a parlé de religion musulmane. Vous savez que le mot d'islamique est maintenant considéré presque comme péjoratif, comme islamiste, ne l'était pas du tout dans les siècles précédents. C'est une opération de propagande, voyez-vous, qui a fait que ces termes sont péjoratifs dans la presse d'aujourd'hui. Mais il a voulu, disons, que les jeunes gens regardent, la jeunesse regarde l'avenir et comprennent d'abord, justement, l'importance de la civilisation musulmane, la civilisation islamique, et que celle-ci, disons, était un fait. Un fait qui reposait sur l'existence d'État, l'existence de société, vous voyez, et que le terrorisme, auquel on donne le nom de terrorisme musulman, de terrorisme islamique, auquel on fait la chasse sous prétexte de parler ici contre je ne sais quelle forme de séparatisme et autres, sont des réalités qui sont des réalités en développement. Et ceci est vrai dans l'histoire, malheureusement on ne l'enseigne que très peu, on n'enseigne pas du tout ce qu'a été le prestige de l'Empire ottoman, ce qu'a été sa conception, ce qu'a été, disons, ce qu'ont été ses philosophes, ce qu'ont été des gens comme Avicenne, par exemple, comme je l'ai vu à Matan. Tout ceci a été mieux connu, je dois dire, dans notre génération, que ça ne l'est aujourd'hui. Et c'est très peu enseigné dans les classes, par exemple, dans les lycées, sous prétexte de ne pas parler de confession. Il ne s'agit pas de confession, il ne s'agit pas de profession de foi, il s'agit de la réalité d'existence d'État avec lesquelles la jeunesse d'Occident doit coexister, elle doit apprendre une coexistence, de même que l'Orient apprend à coexister avec l'Occident, comme il l'a fait du reste, disons périodiquement pendant des siècles. Or aujourd'hui, cette coexistence, sous des noms divers, est mise en cause par ceux qui veulent plonger le monde dans un chaos, et faire, comme ils le disent dans une formule maçonnique connue, disons, faire sortir l'ordre d'un chaos, mais pas d'un chaos ancien, d'un chaos permanent, c'est-à-dire faire reposer une dictature mondiale, voyez-vous, qui efface les nations, qui efface les familles, qui efface les religions même, ou ce qu'on, pour moi, il n'existe qu'une seule religion, mais disons, les formes de confession doivent être effacées, et que l'instinct religieux lui-même doit être brimé. Ceci a déjà été annoncé par des mises en garde de plusieurs de nos philosophes. Nous en avons, M. Heidegger, le disait, et ceci, la jeunesse aujourd'hui l'éprouve. Et ce qu'a voulu, je terminerai sur ce point, c'est que ce sur quoi a insisté, qui fait la valeur de cette lettre, c'est, je le reprends, le fait que le guide suprême met en garde contre les réactions momentanées, voyez-vous, les réactions qui sont aveugles. Il veut que la jeunesse ouvre les yeux. Il a privilégié la jeunesse, parce qu'il pense que celle-ci, disons, est moins empreinte de préjugés, moins alourdie par les préjugés, que ne le sont ceux qui ont connu parmi nous, dans plusieurs générations de Français, par exemple, la guerre d'Algérie, qui essaie de confondre, disons, des réalités, qui mettent sur le compte de l'islamisme ou de l'islam leurs propres méfaits, etc. Enfin, je n'insiste pas sur ces aspects sombres de notre période, mais il a bien insisté, sur le fait que c'est ce développement, cet éveil de l'islam, voyez-vous, qui se marque, qui est progressif, n'est-ce pas, qui est sensible, qui doit être arrêté par, qui est arrêté par la volonté, justement, de ces cercles terroristes qui sont répandus en Occident, qui manœuvrent l'opinion occidentale, voyez-vous, et qui, disons, terrorise en réalité en premier lieu les Occidentaux en disant que la source de ce terrorisme, c'est la situation islamique. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est un fantôme, une caricature qui est le fruit de leur laboratoire, qui justement, disons, qui a comme résultat, comme, de même qu'un mauvais vaccin crée, empoisonne l'organisme, si je puis dire. Eh bien, on peut dire que là, la propagande occidentale, la propagande américaine, au fait de ces milieux, disons, disons à l'intérieur des États-Unis, comme il y en a à l'intérieur d'autres États, de tous les États, à mon avis, de ce qu'on appelle l'Occident et même de l'Orient, jusque dans l'Orient russe, vous avez des forces qui sont anti-religieuses, anti-musulmanes, anti-chrétiennes, voyez-vous, et qui veulent, un abaissement de l'humanité, et deux, une sorte de lutte des civilisations, mais qui ne soit pas momentanée, qui serait constante. Et c'est cela que, justement, le guide suprême a voulu arrêter. Il a demandé, je termine dessus, il a demandé à la jeunesse aujourd'hui d'ouvrir les yeux, de ne pas être sensible à l'agitation, de réfléchir au présent et à l'avenir.
Merci beaucoup. Maître Deschamis, votre lecture, s'il vous plaît.
Avant de parler de cette lecture, je me permettrai de vous avouer une petite confidence. Lors de la première lettre adressée par le guide suprême à l'attention notamment de la jeunesse française, mais en général à la jeunesse occidentale, j'avais pris ce texte qui m'a particulièrement touché personnellement et intimement, et j'ai voulu qu'il soit publié pour qu'il touche le maximum de personnes. Et je l'ai proposé, j'ai même proposé sa publication payante sur mes deniers personnels pour que chaque citoyen, notamment en France, puisse y avoir accès, le lise et puisse bien entendu, le cas échéant, le critiquer, mais dire ce qu'il en pense avec tout l'équilibre qui se dégage de ce texte-là. Nous n'avons pas trouvé le moindre organe de presse qui ait accepté de diffuser et de publier, même de contre-payer le prix de cette publication. Pas un seul organe n'a accepté de le faire. Et ça m'a particulièrement choqué, je me disais, c'est ce que je vais expliquer à l'un d'entre eux, mais pourquoi vous ne l'acceptez pas? Parce que vous prétendez qu'il faut qu'il y ait place à tous les discours, et pourquoi pas aux discours qui se dégagent de la République islamique d'Iran, afin de mieux expliquer sa position, mais en même temps le regard spirituel de cette République, le regard intellectuel de cette République à travers la parole du guide suprême. La réponse était on comprend, mais on ne fait pas. Et cette phrase, ou en tout cas cette réponse, démontre qu'il y a un establishment qui empêche la propagation de ce discours, en tout cas la publication de ce discours, afin qu'il soit audible, compréhensible, et bien entendu touche les personnes auxquelles ce discours se destine. Pour revenir à ce discours par rapport à la jeunesse, en réalité, il y a, à mon sens, trois axes qui se dégagent de ce discours. Le premier, d'abord, c'est de faire parler la spiritualité de la République islamique d'Iran, et plus particulièrement du guide suprême, par rapport au message que l'on veut diffuser. C'est-à-dire, ce n'est pas un message de haine, ce n'est pas un message de défiance, ce n'est pas un message de mise en cause de la culture qui règne en Occident. C'est tout simplement ouvrir les yeux à d'autres perspectives. Et c'est en cela le discours montre et justifie une tolérance qui vient de la République islamique d'Iran à destination du monde occidental et plus particulièrement à l'attention de la jeunesse occidentale. Le deuxième axe, c'est un appel à l'introspection, c'est-à-dire pour que cette jeunesse regarde ce que la société lui propose au prétexte d'une démocratie pour la pousser en quelque sorte à se mettre en difficulté par rapport aux autres sociétés. Et je citerai l'exemple le plus parlant, si j'ose dire, c'est la publication des caricatures sur le prophète Mahomet. On présente ça comme si c'était une leçon de démocratie, mais en réalité, ça génère de la haine des deux côtés, parce que à partir du moment où on vous dit ben, on le fait au nom de la démocratie, les autres n'ont pas le droit de réagir, alors qu'il suffisait de regarder qu'est-ce que c'est cette liberté
que l'on donne au nom de cette démocratie. C'est la liberté d'insulter, c'est la liberté d'humilier, c'est la liberté d'agresser. Qu'est-ce que c'est que cette liberté que j'appellerais gratuite et qui n'appelle que la haine de l'autre côté, parce qu'on ne comprend pas pourquoi cette culture vient agresser d'autres cultures alors qu'elle n'a rien demandé à personne. Et c'est en cela que cette liberté de croyance vient poser une difficulté par rapport à la croyance de l'autre. C'est-à-dire, je ne viens pas agresser votre démocratie, mais pourquoi votre démocratie vient agresser ma croyance, mon intimité et mon intime conviction? Et la troisième observation, c'est ou le troisième axe, c'est le regard du monde occidental et particulièrement de la jeunesse occidentale par rapport à l'autre partie du monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'Iran et les menaces qui pèsent sur cette république qui ne cherche à défier personne? Qu'est-ce qui se passe par rapport au Yémen, par rapport à la Syrie, à l'Irak, par rapport à l'Afghanistan et par rapport à l'ensemble du monde musulman? Est-ce que vous avez vraiment le vrai regard et la vraie compréhension par rapport à ce monde, et vous avez tout simplement ce que vos gouvernements vous apportent comme information? C'est-à-dire, à partir du moment où on vous dit c'est un monde qui a vocation à avoir la paix, qui ne cherche qu'à avoir la sécurité, qui ne cherche à avoir je dirais la meilleure relation avec l'autre partie du monde. Et qu'est-ce qu'on vient lui apporter? On vient lui apporter les menaces, la violence, la guerre, le terrorisme et tout ce que ça comporte comme destruction culturelle, patrimoniale, religieuse, sociétale et puis bien entendu civilisationnelle. C'est-à-dire à partir du moment où vous venez agresser ces pays-là, comme ce qui s'est passé notamment en Afghanistan, en Irak, au Yémen, en Syrie, c'est l'essence même de la civilisation de ces pays que l'on cherche à détruire. Et ces pays-là, vous les comprenez comment? Vous ne les comprenez pas parce que vous les regardez qu'à travers le prisme de vos dirigeants. Et moi, je vous demande tout simplement de vous ouvrir et de regarder l'équité et avec beaucoup d'intelligence et surtout avec beaucoup d'ouverture d'esprit ce qui s'y passe. Est-ce que, et c'est, je dirais, l'exemple le plus marquant, est-ce qu'un homme normal, doté d'un minimum de bienveillance, d'un minimum de, je dirais, d'intelligence, est-ce qu'il peut regarder ce qui se passe en Palestine en termes de massacre, en termes de destruction, en termes d'éviction de toute une population de son territoire pour en implanter une autre au prétexte que l'État d'Israël, que j'appelle moi l'antisioniste, a envie de s'installer sur votre territoire pour implanter des gens qui viennent de l'autre bout du monde? Qu'est-ce que c'est que cette équité? Qu'est-ce que c'est que cette justice? Qu'est-ce que c'est que cette égalité entre citoyens du monde? Alors que si vous avez un territoire et vous avez quelqu'un qui se trouve sur ce territoire-là, rien ne justifie que vous venez le chasser. Et regardez donc tout ce que le monde occidental impose au monde musulman et vous comprendrez ce qui s'y passe. Et c'est ce regard-là que l'on attend de vous, vous, la jeunesse occidentale, c'est-à-dire avoir un regard intelligent, un regard de critique par rapport aux décisions et qui sont prises en votre nom et surtout un regard de justice, mais la justice dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ne pas accepter l'injustice, ne pas accepter la destruction, ne pas accepter la terreur imposée à une population qui est, par définition, pacifique, qui n'a pas cherché à agresser quiconque et qu'on vient agresser sur son propre territoire au prétexte que l'on veut changer ce monde et le reconfigurer, le restructurer, comme l'a appelé à un moment donné Condoleezza Rice, la destruction créateur ou la démolition, moi j'appellerais créateur ou créatrice. Regardez voir ce que ça a apporté. Ça a apporté des malheurs, des drames et bien entendu une frustration de la part de cette population qui ne supporte plus ce qu'elle subit depuis un certain nombre d'années. Et c'est ça que l'on attend de la jeunesse.
Maître André Chamy, vous avez un rendez-vous juridique. J'en vous retiens, point plus. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à notre émission. Et je vous dis bonne journée et à très bientôt. Eh bien, Monsieur Dortiguet, vous venez d'entendre les explications de Maître Deschamis. Je viens de le dire tout à l'heure dans sa lettre, l'honorable Ayatollah Khamenei a fait allusion au rôle joué par les États-Unis pour renforcer le groupe terroriste Al-Qaïda. Et dans une autre partie de sa lettre, l'honorable Ayatollah Khamenei précise, avec beaucoup de regret, je dois dire que ces groupes lâches, comme celui de Daesh, sont les progénitures de ces liens avortés avec des cultures à importer de l'extérieur. Si le problème était vraiment de nature religieuse, de tels phénomènes auraient dû exister également à l'époque du colonialisme. Là, l'honorable Ayatollah Khamenei souligne que le groupe terroriste de Daesh n'a rien à voir avec la religion de l'islam, et l'honorable Ayatollah Khamenei fait allusion surtout à ce verset du Noble Coran qui considère que l'assassinat d'un seul être humain est comme, en fait, l'assassinat considéré comme l'assassinat de toute l'humanité, M. Dortiguet.
Oui, en effet, ce verset du Noble Coran dit que, si je me permets de commenter, que quand on accepte, bien sûr, de détruire un être humain, on accepte de détruire le principe de l'humanité, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte, en fait, à des instincts démoniaques, et c'est un peu ce à quoi nous avons assisté depuis surtout la fin de la Seconde Guerre mondiale, déjà autrefois, mais surtout à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque des guerres, disons, perpétuelle, a commencé par d'abord la guerre en Palestine en 47-49, et ensuite la guerre en 56 contre l'Égypte, et puis ensuite avec toutes ces formes de coups d'État, vous voyez, qui marquaient la vie du Proche-Orient, et jusque bien sûr l'accroissement avec l'attaque de l'Irak, l'attaque de l'Afghanistan autrefois préparée par Brzezinski. Je soulignerai du reste, puisque nous avons cette liberté de parler ici entre nous, que l'exemple de l'Afghanistan est très important et très, disons, très significatif, car celui-ci a été abattu en deux coups de cognée, comme on dit chez les bûcherons. C'est-à-dire que la première fois, c'est un coup d'État communiste, si je puis dire, qui a renversé le régime traditionnel, voyez-vous, de la monarchie afghane, et c'est sur ce premier acte communiste qu'est venue ensuite une sorte de réaction, mais contrôlée de la part de ce qu'on appelle les talibans, avec Brzezinski et autres, c'est-à-dire que nous avons eu affaire, si je puis dire, comme à des produits qu'on mettrait dans un laboratoire. C'est-à-dire que ces États, monté une fraction de la population contre une autre, c'était des choses qui étaient faites de l'extérieur, contrôlées de l'extérieur, mais qui était méthodiquement suivi. C'est-à-dire, alors, on se demande quel est le but de tout cela. Le but de tout cela, c'est d'introduire une atmosphère de lutte civile permanente, un chaos permanent à l'intérieur des États. Alors, on a essayé, on aurait pu essayer de heurter les chiites, par exemple, aux sunnites et autres, mais on essaie de diviser le plus possible la société et d'introduire, comme vous l'avez bien dit, en reprenant la lettre de Ayatollah Khamenei, d'introduire des éléments très artificiels qui n'ont pas même existé au moment de la colonisation. Nous n'avons jamais eu, par exemple, des mouvements comme Al-Qaïda ou autres, par exemple, qui, si on les prend à titre originel, par exemple, se lever contre la colonisation. Pas du tout. Au contraire, c'est cette colonisation qui a créé ces produits artificiels, et ces gens-là, d'ailleurs, ne savent qu'ils ne sont rien sans cet apport incessant qui leur est apporté. Ce sont des gens qui ont subi, qu'on appelle, des sortes de lavages de cerveau. On appelle ça les moyens MK Ultra ou autres, voyez. Et ils sont nourris, sans cesse nourris, j'entends, alimentés en propagande, sont alimentés en armes, etc. Ce sont des gens qui sont souvent déracinés de leur pays, voyez-vous, qui vivent en vase clos. Et c'est ceux-là qui sont des bombes vivantes, voyez-vous. Et on essaie d'intimider, non seulement d'écraser les peuples locaux, mais d'intimider en même temps les Occidentaux et la jeunesse occidentale en disant, voyez, ce danger incessant en Orient, etc., vous devez craindre ceci à l'intérieur de vos propres sociétés. C'est sur cette crainte que ce, qu'une tyrannie espère se constituer durablement.
Merci beaucoup.
Je dirais non seulement en Occident, mais dans le monde entier.
Merci infiniment, M. Pierre d'Ortiguier, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
Et la pratique des courants takfiristes. Un média syrien dresse un tableau accablant des crimes des États-Unis et des terroristes affiliés à la coalition américaine en Syrie. Dans un article évoquant la guerre en Syrie, le journal syrien Al-Sawra souligne que depuis le début de la guerre terroriste contre la Syrie, la soi-disant coalition internationale dirigée par les États-Unis, en soutenant les groupes terroristes armés, a commis des crimes et des meurtres accablants au sein de la population. La coalition a détruit les infrastructures dans de nombreuses régions sous prétexte de la lutte contre Daesh. La ville de Raqqa, rasée par les chasseurs de la coalition américaine, en est une preuve flagrante, fait savoir le journal. La coalition américaine n'a pas tiré une seule balle sur les terroristes de Daesh et continue de les soutenir en attaquant l'armée et ses alliés en Syrie. Ainsi, les hélicoptères américains évacuent les terroristes d'une zone à l'autre pour leur permettre de se ressourcer. Selon le journal, outre les frappes aériennes quotidiennes de la coalition américaine, en particulier dans les provinces de Raqqa, Hasake et Deir ez-Zour, la coalition américaine utilise des armes prohibées au niveau mondial, telles que le phosphore blanc. La Syrie a appelé à plusieurs reprises la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies à prendre des mesures immédiates pour arrêter ces crimes. Le journal Al-Sawra poursuit : la coalition américaine a été formée illégalement avec la prétention de lutter contre le terrorisme en dehors du cadre du Conseil de sécurité et sans le consentement de Damas. Au lieu de cela, elle cause la mort des civils syriens et irakiens impunément, au vu et au su de la communauté internationale et du Conseil de sécurité, et ce dans l'intérêt de Washington. Plus loin dans son article, le journal syrien qualifie les forces démocratiques syriennes FDS, d'outils des Américains qui continuent de mener des actes terroristes contre les résidents des territoires occupés avec le soutien des forces d'occupation américaines. Ces mercenaires commettent des actes criminels sur ordre des États-Unis dans l'intérêt de Daesh et de la politique du régime sioniste dans les territoires occupés. Les FDS travaillent pour les États-Unis. Leur mission est d'être présents en Syrie pour favoriser le plan de démantèlement de la région, ourdi par l'axe américano-sioniste. Le journal Al-Sawra explique que les attaques terroristes, les enlèvements, les meurtres, les pillages et les vols commis par les FDS et dans l'intérêt de la CIA et du Mossad, n'atteindront pas leurs objectifs. Par contre, cela suscitera l'opposition publique et renforcera l'esprit de la résistance dans la région. La victoire finale est aux mains de l'armée et du peuple syrien. Une autre grande défaite est l'humiliation attendent les Américains, les terroristes et les séparatistes, conclut le journal. Une source irakienne a fait part d'un nouveau plan des États-Unis visant à créer un vide sécuritaire à la frontière entre l'Irak et la Syrie. Samedi 16 janvier, une source bien informée a fait part du plan des États-Unis consistant à restaurer et rétablir le groupe terroriste de Daesh dans le désert d'Al-Anbar et d'Al-Jazeera. Les récentes attaques américaines sur la frontière entre l'Irak et la Syrie avaient donc pour objectif de faciliter le déplacement des éléments de Daesh. Lors d'une interview avec Al-Maluma, la source précise que les avions américains et israéliens ont mené plusieurs attaques contre les forces syriennes et leurs forces de soutien ces derniers jours. Ils ont visé les centres de contrôle des frontières et le centre du commandement des forces syriennes. Ils veulent forcer l'armée syrienne à évacuer la bande frontalière. Selon la source, le commandement militaire des États-Unis veut intensifier les attaques contre les Hashd al-Shaabi. C'est un prélude aux attaques militaires contre les brigades de cette organisation basée dans la bande frontalière. Si cela se produit, il y aura un vide sécuritaire qui facilitera le transfert des éléments de Daesh dans les déserts d'Al-Anbar et d'Al-Jazeera jusqu'à la région de Sarsar. Les rapports des services de renseignement montrent que les forces américaines et les FTS ont fait évacuer plus de 12 000 combattants de Daesh du camp d'Al-Hol, dont la plupart sont des dirigeants arabes et non arabes de cette organisation takfiriste. Il y a quelque temps, la ville syrienne de Hasakeh a été témoin d'une importante opération des hélicoptères américains aux heures tardives de la nuit. Ils transféraient des prisonniers de Daesh à la frontière entre la Syrie et l'Irak. Pour la 10e nuit consécutive, des hélicoptères de la coalition internationale dirigés par les États-Unis ont été aperçus volant à basse altitude au-dessus de la partie sud de Hasakeh, où sont installées des prisons pour des hommes armés de Daesh de différentes nationalités. Dans une interview avec Al-Mayadeen, des sources syriennes sur le terrain ont déclaré que des hélicoptères transportaient plusieurs fois par jour des prisonniers de Daesh vers leur base en Irak depuis les prisons de Hasakeh. Plus de 100 prisonniers ont été libérés, puis armés. Au cours des trois derniers mois, les États-Unis ont transféré des dizaines de combattants de Daesh des prisons de Hasakeh vers une zone de 55 km d'Al-Tanf. Ils les ont préparés à des attaques contre des bases de l'armée syrienne dans le désert de Badia. Les États-Unis cherchent donc à maintenir leur présence en Syrie et en Irak sous prétexte que les activités de Daesh dans la région ont repris. Les terroristes de Daesh encore héliportés par les États-Unis vers la frontière entre la Syrie et l'Irak. Les États-Unis ont peur pour Al-Tanf après le raid du 13 janvier d'Israël contre Deir-ez-Zour. Des sources locales en Syrie ont rapporté que les États-Unis avaient transféré des prisonniers de Daesh à la frontière entre l'Irak et la Syrie afin de les utiliser comme excuse pour rester sur le sol syrien et attaquer les positions de l'armée syrienne. La chaîne Al-Mayadeen a rapporté, citant des sources sur le terrain, que l'armée américaine avait héliporté des prisonniers de Daesh depuis plusieurs prisons de la province de Hasakeh jusqu'à la frontière avec l'Irak. Des sources sur le terrain ont déclaré à Al-Mayadeen que des hélicoptères américains transportaient quotidiennement des prisonniers daéchistes vers des bases américaines en Irak. Selon le rapport, les prisonniers de Daesh, dont la plupart sont de nationalité irakienne, sont rassemblés au complexe sportif de Gorgan, puis héliportés à la frontière sous la supervision et la gestion de l'armée américaine. Les sources ont déclaré à Al-Mayadeen que plus de 100 prisonniers avaient été emmenés à la frontière irakienne, puis relâchés après avoir été armés pour attaquer les positions de l'armée syrienne et de ses alliés dans les déserts de Syrie et d'Irak. Ces sources ont également noté qu'au cours des 3 derniers mois, les Américains avaient transféré des dizaines de prisonniers de Daesh des prisons de Hasakeh vers le district 55 d'Al-Tanf et les avaient utilisés afin d'attaquer les positions de l'armée syrienne.
Thank you.